Donc, merci de cette présentation. Le petit jeu de mots était l'essentiel de mon humour. Mon frère m'a bien averti à cause de mon statut professoral de ne pas trop faire d'humour parce que l'humour de prof, ça passe pas bien. Ou c'est tout simplement pas drôle. Donc, je m'assume totalement. Et en commençant, cependant, puisque je viens d'une école de gestion, je vais vous faire les mises en garde visuelles. Si je discute donc d'entreprise, ça ne constitue pas des recommandations d'investissement. Et non, je ne les ai pas dans mon portefeuille, car étant professeur, je n'ai pas un très gros portefeuille. Voilà, c'est dit. Ceci étant dit, par exemple, on va continuer de parler de l'Amérique du Nord. Et ma perspective sur l'Amérique du Nord, vous la verrez, on a vu beaucoup de courbes ce matin. On a vu beaucoup de détails sur l'ALENA historique et autres. Et ma perspective est plus à court terme, plus une perspective orientée donc sur les États-Unis, notre principal partenaire, parce que, n'en déplaise à ceux qui croient le contraire, les États-Unis sont un pays qui, par définition, est un peu myope. Et donc, le futur à long terme de ce pays est souvent déterminé par des enjeux à très court terme. Donc, j'ai une perspective assez 2014 sur ces questions-là. On va parler aussi de quelques tendances nationales, plutôt du côté des affaires, donc tendances en vrac que j'avais dégagées pour des gens d'affaires à l'époque et d'implication. Moi, je suis de ceux qui croient qu'il y a péril en la demeure pour les alénistes, entre guillemets, c'est-à-dire que la carte se redessine complètement, surtout depuis la crise financière, peut-être en partie à cause de cette crise-là. Ça, c'est un graphique que j'aime utiliser souvent pour montrer que l'Amérique du Nord, dans le fond, échange de moins en moins avec elle-même, même si on sait que pour les années à venir, elle constituera le noyau des exportations canadiennes, surtout les États-Unis. Il reste qu'on échange de moins en moins entre nous et de plus en plus avec l'Asie et, bon, dans une certaine mesure aussi, avec l'Amérique centrale et du Sud. Par ailleurs, un autre marqueur que j'aime bien utiliser pour parler de ce recul relatif de l'Amérique du Nord dans le monde, c'est le nombre des 500 plus importantes multinationales qui sont nord-américaines. Vous remarquez que la tendance récente est à la décroissance, c'est-à-dire que dans les 500 plus grandes multinationales, il y en a de moins en moins qui sont américaines et il y en a aussi de moins en moins qui sont canadiennes, donc la fameuse petite courbe bleue ici. Ça vous montre donc pas nécessairement qu'on s'appauvrit, mais qu'en termes relatifs, on est certainement moins riche, mais en termes relatifs. Donc, vous ne vous sentez pas dans votre portefeuille, mais vous vous comparez aux autres. Du côté du Brésil et de la Chine, ben oui, c'est la Chine, cette courbe, et elle n'a pas fini de monter. Une belle exponentielle, bref, un bel accident statistique. Et peut-être pas, finalement. Et lorsqu'on regarde quelques exemples de ces multinationales, juste pour vous donner un ordre, une idée de l'ordre de grandeur de ce dont on parle, au début de la période, en 2005, c'était Walmart à 288 milliards, la plus grande entreprise du monde. Maintenant, elle est à 469, mais Sinopec, elle, est à 428. Donc, vous voyez que nos amis chinois, en termes d'envergure, commencent à rattraper nos amis américains, pas nécessairement en termes de nombre d'entreprises, mais en termes de valeur. Nous, au Canada, eh bien, vous remarquez qu'on est toujours, bon an, mal an, là, dans les trentaines, quarantaines de milliards. C'est encore respectable sur la scène mondiale, mais on sent notre recul relatif. Un pays comme les Pays-Bas, par exemple, a, lui, beaucoup plus de grandes multinationales que nous. Donc, ça dit aussi quelque chose sur la manière dont on joue nos cartes en termes de politique économique. Il y a quand même une embellie du côté des Amériques. Regardez nos amis mexicains et brésiliens qui, eux, font plutôt bonne figure dans des secteurs où le Canada était historiquement bon, notamment les secteurs de l'énergie des mines et aussi la finance dans le cas du Brésil. Donc, ça vous donne une idée que les cartes se rebrassent autour des Amériques. Elles se rebrassent aussi à l'intérieur des États-Unis. Ça aussi, c'est un graphique que j'aime beaucoup, parce que bon, le CFR et beaucoup d'autres organisations ont compilé des données de sondage sur l'ALENA. Et lorsqu'on les met bout à bout, le dernier point de données ici est vers la fin 2010, début 2011, on s'aperçoit qu'il y a énormément de variabilité dans l'opinion publique américaine quant aux enjeux de l'ALENA. Cette variabilité-là existe depuis les débuts de l'ALENA. Elle est souvent tributaire des cycles économiques. Tributaire aussi, bon, vous allez me dire, de Rush Limbaugh, peut-être aussi, ou de Bill O'Reilly, mais on y arrive. Mais il y a une embellie au sud de la frontière, parce que si vous regardez les dépenses à la consommation ici, et si vous regardez les profits des entreprises, les courbes sont à la hausse dans un avenir, assez proche de nous. Ça, c'est une excellente nouvelle, à la fois pour les États-Unis, mais aussi pour l'ALENA. Mais lorsqu'on regarde du côté du revenu personnel disponible et de l'épargne, donc le revenu personnel disponible et l'épargne des Américains, là, la photo dans le futur, si on veut, les prévisions sont beaucoup moins roses. Ça, c'est les chiffres du Conference Board, par ailleurs. Donc, ce que ça veut dire, ben, c'est que comme l'économie américaine est à plus de 70% essentiellement, le grand C dans l'équation du PIB, donc la consommation, il va y avoir des effets sur le Canada de cet écart et les marchés du crédit aux États-Unis, sur le plan bon, individuel mais aussi pour les entreprises, sont essentiellement là, le lubrifiant de la relation canado-américaine parce que vous bloquez le crédit, vous bloquez effectivement le reste de la relation commerciale parce que ça devient très difficile d'exporter, de se financer. Les Américains sont en ce moment-ci très, très perplexes face à l'économie. Pour vous donner une idée, l'échelle ici de ce sondage de Gallup va de moins 42 à 29. La moyenne nationale américaine est à moins 21. Donc, on est plus optimiste qu'on l'était au plus fort de la crise. Mais on pourrait l'être encore plus. Oui, effectivement, vous avez remarqué que le Wyoming et la Virginie-Occidentale ne sont pas du tout optimistes quant à l'économie. Et faites à noter, le maximum ici sur l'échelle de 29, c'est Washington, D.C. Donc, à Washington, on est très, très, très optimistes. Et en espérant que maintenant, il y a des gens qui pensent à l'ALENA dans ces optimistes, ce qui serait bon pour nous, les Canadiens. Lorsqu'on regarde la croissance des États maintenant, ben, on s'aperçoit que la croissance n'est pas nécessairement le long de la frontière canado-américaine, à l'exception du Dakota du Nord, où je vais dire un mot ici qu'on ne peut pas dire facilement au Québec, où il y a du pétrole de schiste et du gaz de schiste. Et donc, de ce côté-là, la croissance est assurée, mais il y a aussi, bon, les États du Sud, pensez Colorado, Arizona, Texas, qui ont tendance à plutôt bien aller. Notez, Québécois, entre nous, la Nouvelle-Angleterre se comporte de façon, disons, moins intéressante qu'elle l'a déjà été. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à développer nos corridors de commerce avec eux, mais simplement savoir que la croissance est ailleurs aux États-Unis. Et ce que ce graphique-là vous montre aussi, c'est que les États-Unis, c'est un pays qui est très, très local, et très local. Donc, ça a une influence sur les tendances qu'on voit dans l'industrie, tendances qu'on voit donc dans ce nouvel ordre. D'abord, bon, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, la finance, les taux d'intérêt montront-ils, ne montront-ils pas? Regardez Mme Yellen qui ne fait qu'hésiter ou dire qu'elle va continuer les mesures de M. Bernanke. Et là, les marchés sont assez nerveux parce que, bon, est-ce qu'il va y avoir assez de liquidités? Est-ce qu'on va continuer à, entre guillemets, imprimer de l'argent? Pensez à l'accès au crédit, encore une fois, à la fois aux entreprises et aux particuliers. Ça aussi, c'est une dimension qui va avoir un impact sur le futur de l'ALENA, parce que le crédit est maintenant essentiel à la prospérité économique de l'Amérique du Nord, pas qu'aux États-Unis, mais aussi au Canada. Donc, vous bloquez le crédit d'un côté de la frontière, vous bloquez une partie de la relation bilatérale. On parle beaucoup, notamment chez les démocrates, de reshoring, qui est une tendance qu'ils vont contester dans certains milieux. Oui, le manufacturier est encore très important, mais il n'y aura pas de bénéfices à l'ENA qui viendront de cette tendance du reshoring, parce que souvent, ça vient de secteurs qui sont très, très nichés, et donc qui ne sont pas des secteurs industriels traditionnels canadiens. L'énergie, ça, c'est très intéressant, parce que l'énergie dans l'ALENA, c'est une grosse question, grosse partie des négociations qu'on a eues. Et là, l'avantage canadien, notre levier de négociation avec les États-Unis, s'étiole à vue d'œil. On a de moins en moins de pouvoir de négociation dans l'ALENA parce que les États-Unis sont en voie de devenir éventuellement autosuffisants en énergie, gaz, je le redis, je m'excuse, pétrole de schiste et gaz de schiste. Voilà, c'est dit. Donc, ça fait que certains sénateurs commencent même à parler d'exporter de l'énergie. Et ça, c'est inquiétant pour les Canadiens parce que nous, on n'a plus notre levier avec notre partenaire. Alors, puisque ça va devenir, disons, plus difficile de négocier certains, disons, complexes qu'on peut avoir face à nos voisins. Le côté des énergies vertes, c'est malheureusement, ça souffre beaucoup en ce moment dans l'imaginaire américain, notamment à cause de l'affaire Solyndra, une grosse faillite retentissante d'une entreprise de l'économie verte et qui, bon, ma foi, a bénéficié de crédits gouvernementaux. Pas que l'économie verte ne fonctionne pas aux États-Unis, mais que cette faillite-là était tellement retentissante que ça a fait énormément mal au secteur. Donc, il y a comme un paradoxe entre la réalité sur le terrain et ce que le public américain en perçoit. Et donc, ça se reflète aussi dans nos relations avec nos amis américains. Pensez aux industries maintenant nouvelles et créatives qui émergent au sud de la frontière aussi, qui vont conditionner notre relation, surtout du côté sécuritaire et du côté sécurité alimentaire. Donc, marijuana, ai-je besoin de le dire. Donc, ça va compliquer la vie de certains Américains lorsqu'ils vont passer la frontière. mais ça va aussi jouer sur la relation bilatérale en matière de sécurité. Je crois que les citoyens des États et les gouverneurs des États, lorsqu'ils ont fait les barrettes d'initiative, n'avaient peut-être pas tout à fait cet aspect-là en tête, mais c'est passé. Par ailleurs, le design in the USA, c'est de moins en moins un gage d'avantage, et ça peut être un avantage pour le Canada, parce qu'il y a un peu moins de sensibilité de ce côté-là. On fait le design notamment de certains modèles de Buick en Chine, et les Américains sont assez peu sensibles parce qu'on a eu l'intelligence de badger avec une marque américaine. Donc, là, il y a comme encore une fois un paradoxe, mais qui montre qu'il y a une manière de pénétrer le marché américain pour les Canadiens qui, là, peut être originale et porteuse et qui nous permet d'éviter les écueils de ce qu'on peut voir dans l'ALENA. Et donc, je me permets de vous parler de cette hyper-partisanerie qui vient conditionner, dans le fond, le futur de l'ALENA, parce que les gens qui sont aux commandes maintenant, ce n'est plus les gens qui étaient aux commandes à l'époque de l'ALENA. C'est plus non plus la même manière de voir les enjeux. Et lorsque vous regardez au niveau général, les démocrates se font souvent tirer vers la gauche parce que la gauche du président lui reproche de n'être pas assez à gauche, alors que la droite, elle, devient complètement hystérique. Du côté de la droite, ben là, c'est plus les fameux républicains conservateurs fiscaux. Vous avez des gens qui sont beaucoup plus idéologiques et qui ne voient plus nécessairement le Canada comme un ami ou un allié naturel, ou qui s'en servent à leur propre fin politique lorsqu'ils en ont besoin. Donc, on est un peu moins là. Du côté du gouvernement fédéral, les enjeux de politique intérieure qui touchent l'économie, plafond de la dette, là, ça va moins mal, mais c'est un enjeu qui va sûrement revenir dans les mois et les années à venir, je vous le dis. Les questions fiscales et budgétaires aussi, comment régler le déficit, les coupures automatiques, tout ce genre de mécanismes qui font maintenant partie de notre vocabulaire et qui ne faisaient pas partie de notre vocabulaire il y a quelques années. Vous avez la réforme de l'immigration qui est très, très importante parce que ce matin, on parlait là, de mobilité des facteurs, notamment de la main-d'œuvre aussi. Et ça a beaucoup, beaucoup d'impact sur la relation bilatérale, cette réforme de l'immigration. Et même l'Obamacare qui vient, amener une pression sur le système de santé américain qui n'était pas prévu. C'est-à-dire que, l'intention est tout à fait louable. Et je crois qu'aucun Canadien ne pourrait être contre l'intention. Mais faites un sondage, appelez vos amis américains là, qui sont dans la classe moyenne. Moi, j'ai fait l'exercice avec quelques-uns de mes amis américains. Et en moyenne, dans mon échantillon de peut-être un peu plus d'une dizaine de personnes, leur facture de santé, et là, on parle de classe moyenne, on ne parle pas du 1%, leur facture de santé a en moyenne été multipliée par 2,5 ou par 3. Ça veut dire une ponction significative de votre budget. Et ça va affecter donc ces consommateurs-là qui pouvaient acheter des biens et des services canadiens qui ne les achèteront plus ou qui reverront leur allocation budgétaire. Au niveau des États aussi, l'ALENA n'est pas en reste parce que, oui, il y a énormément de pression pour le contrôle des dépenses des États. Alors même, on parle d'ouvrir les marchés publics de ce côté-là. Et là, vous voyez une espèce de tension entre les gouverneurs comme Scott Walker qui essaie de mater littéralement les syndicats et qui a réussi jusqu'à un certain point. Et d'autres types d'arrangements pour contrôler les dépenses au niveau strictement des États. Les gouverneurs veulent créer des emplois. Et ce que ça fait, que la carte nord-américaine se redessine. C'est-à-dire que vous avez une concurrence fiscale qui est féroce maintenant et qui n'a rien à voir avec l'ALENA et qui, si on veut, vient un peu brusquer les Canadiens. Pour vous donner une idée maintenant, l'État de New York, ceux d'entre vous qui avaient le goût d'investir à quelque part, on vous donne un congé de taxe pour 10 ans. C'est quand même fabuleux. Le New Jersey a emboîté le pas. Le Michigan a déjà aligné plus d'un milliard pour un projet automobile. Bref, il y en a de l'argent pour ce genre de projet-là et ça vient affecter nos entreprises et la localisation de ces entreprises-là. La concurrence se fait aussi en termes de droit du travail. C'est pas dans l'ALENA, c'est un enjeu de politique intérieure, mais on parle de mobilité des facteurs, donc les fameux right to work states, on pourra en parler un peu plus tard. Et les implications, eh bien, plus ça change, plus c'est pareil. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux bilatéraux continuent de revenir à l'agenda, même si l'ALENA nous fournirait un cadre pour, en tout cas, en parler ou au moins structurer nos relations. On a toujours une très bonne opinion de nous aux États-Unis. Le Chicago Council on Global Affairs montre qu'on a un taux d'approbation qui dépasse les 90% dans beaucoup de cas. Donc, bravo Canada. Mais au-delà de ça, le Canada et l'ALENA sont victimes de la politique interne américaine, justement à cause de ces jeux de partisans dont on a discuté il y a quelques instants. Pensez au pont ambassadeur, mon Dieu, on pourra en parler de ce pont-là. Dans les initiatives, le gouverneur s'en mêle, pas juste le maire. Le Canada finance, mais on construit, puis on n'a plus d'argent au fédéral nécessairement pour mettre des gentils biquis dans la guérite que le Canada a financé. Bref, c'est tout très intéressant, un beau cas d'Amérique du Nord. Pensez aussi aux questions de fluidité, pensez aussi aux chaînes de valeur, donc contenu canadien, parce que ça, c'est inquiétant. À mesure qu'on descend vers le sud, le contenu canadien dans les chaînes de valeur diminue. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nos amis mexicains, parce qu'eux, ils voient le leur augmenter, mais c'est moins intéressant pour nous comme Canadiens. Donc, on a plusieurs défis. D'abord, l'énergie qui était notre bouton nucléaire de négociation, on ne l'a plus. Par ailleurs, l'ALENA bloqué, point d'interrogation, pourquoi? Parce que là, je n'ai pas ouvert la boîte de Pandore, mon collègue, les autres collègues vont le faire, mais le TPP est consort. Mais le Canada et le Québec peuvent quand même tirer parti de la reprise américaine parce que notre opportunité, c'est qu'on est nord-américain. Et on pense comme des nord-américains, on fait des affaires comme des nord-américains. Et faut pas qu'on ait peur d'agir. On comprend aussi bien les enjeux. Donc, je vous remercie. Désolé de cette... Là, on me dit que j'ai terminé. Donc, c'est un peu un tour furieux, mais en question, ça me fera plaisir de vous parler de plus grandes tendances de fond et puis de vous dire comment ça affecte la suite de la démarche.
Voilà. Bravo.
Merci.